entière. Et avant de passer, oui, on va passer aux questions. Il nous reste à peu près 5 à 10 minutes. Donc, on prend quelques questions supplémentaires, j'en vois 3. Et après ça, on se déplacera après le remerciement. Je vous donnerai quelques conseils à nouveau et on pourra poursuivre. Alors, d'abord, M. Mathieu,
professeur. André. Mathieu, c'est le bon garçon. Non, pas ça. Est-ce que dans les chercheurs, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à avoir une perspective historique? Parce que j'ai l'impression que la mésinformation, même le complotisme, ça a toujours existé, mais ça prenait des formes différentes. Alors, par exemple, dans les réunions de famille auxquelles je participais, il y avait ce qu'on appelait des gros jours connaissants. Et puis, moi, il en savait, puis il parlait fort.
Oui, puis on en parle entre autres dans le livre, mais le complotisme a toujours existé, tout comme les complots. Jules César, les complots existaient déjà, Watergate, il y avait les réseaux sociaux. Donc, les complots existaient, le complotisme aussi. L'idée qu'on n'a pas marché sur la Lune, ça date bien avant les réseaux sociaux. Il y a peut-être moins d'organes de diffusion pour le faire entendre puis le faire voir. Mais d'avoir une perspective historique sur la question, c'est vraiment difficile. Écoutez, je vous reporte un an et demi avant la pandémie. Mon équipe de recherche, on se rendait compte que quand on allait dans les écoles, l'espèce de discours sur justement n'a pas marché sur la Lune. Le 11 septembre, c'est pas fait pour de vrai, c'est des hologrammes. C'est de plus en plus présent. Parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu ces événements-là, mais ils vivent par procuration sur Internet, qui ont juste cette vision alternative-là. Et quand on a demandé des financements de recherche, on s'est fait dire qu'on était un peu zoin-zoin de vouloir étudier ça, que c'était bien marginal. Avec la pandémie, on refusait des subventions parce qu'on n'était plus capable de tout mener. Il y a comme eu un basculement où, tu sais, quand on leur dit attention, c'est important de sous-estimer l'effet de la désinformation pour ce qu'on fait. Il a fallu attendre la crise pour que ça se manifeste. Ce qui fait en sorte que les données sur l'adhésion au complotisme sur les complots avant la pandémie, au Canada, il n'y en a pas beaucoup. Entre autres, il y a une étude qui a été faite à laquelle on réfère souvent, qui est une étude faite par Léger et. Je ne sais pas ce que je veux dire, je l'oublie. L'Institut du Nouveau Monde, pardon. Mais c'est à peu près une des seules que je connais, peut appeler ça des fake news ou des fausses nouvelles, mais c'était vraiment des complots. Mais à part ceux-là, il y en a vraiment peu. Donc, ça devient vraiment difficile de voir l'évolution. Mais on a tendance à penser que le niveau d'adhésion est pas mal semblable chez la population, c'est juste peut-être le bruit qu'on fait autour des complots qui n'est pas pareil.
Merci. Michel, puis après, Gilbert.
Je m'attendais que vous pensiez de marier l'impact d'ici, comme le ChatGPT, d'autres outils d'intelligence artificielle sur la désinformation.
Ben, je ne l'ai pas fait pour deux choses. Nos travaux ne sont pas intéressés à ça, donc je ne vais pas m'avancer sur quelque chose qu'on n'a pas mesuré parce que c'est assez récent. C'est évident que quand on lit des chercheurs qui s'intéressent à ces sujets-là, on voit vraiment la préoccupation sur la montée de l'adhésion à la désinformation parce qu'avec le deepfake, donc l'idée qu'on va être capable maintenant de faire des vidéos, on pense que la personne parle, que ce n'est pas elle qui parle, on lui fait des faux discours, des photos qui sont décontextualisées. Ça va être de plus en plus difficile de départager le vrai du faux, puis ça va vraiment avoir un impact encore plus grand si on a outillé les gens pour comprendre les sources d'informations puis pour être méfiants. Mais bien franchement, c'est pas quelque chose qu'on a encore beaucoup approfondi, notamment parce que ça se développe tellement vite. Mais c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Parce que là, si on est déjà dans ce contexte-là, avec en plus des outils dont on n'a pas le contrôle, puis dont on va avoir encore plus de défis à vérifier la véracité. Ça va être vraiment
bien. Le problème, c'est que ça vient d'une discipline scientifique.
Ben, puis, tu sais, de voir des experts en intelligence artificielle qui invitent le gouvernement à légiférer plus vite, c'est inquiétant.
Merci. Et Gilbert, pour la dernière intervention.
Je suis désolé que le niveau de scolarité n'a pas été un impact aussi important, d'après ce que vous avez dit. Et il me semble que ça va un petit peu dans le compte de ce que vous dites à la fin, un des moyens de.
Il y en a un. On voit quand même que les adhérents, surtout les plus convaincus, ont un niveau de scolarité un peu moins. Donc souvent, on n'a pas un niveau universitaire. Le niveau universitaire est moins représenté, surtout chez les convaincus. Donc on peut penser qu'à l'université, peut-être on développe plus notre sens critique, on comprend mieux le fonctionnement des institutions. Donc il y en a un. J'ai peut-être pas été assez claire là-dessus, mais il n'est pas aussi fort que d'autres facteurs comme le psychologique ou comme les facteurs relationnel notamment. Par contre, chez les leaders, parce qu'on voit que les leaders, il y en a beaucoup qui sont très éduqués. Oui. Mais eux, c'est parce qu'ils ont d'autres motivations. Oui. Entre autres, j'étais sur le un des leaders, mon père a son nom professionnel, c'est un ancien comptable, il a perdu son titre de comptable. Moi, j'étais sur son... Disons, j'étais quand il a comparu, j'étais expert témoin pour ça, sa comparution. Clairement, lui, il disait, c'est parce qu'il voulait être une vedette, puis il avait trouvé une voie qui lui permettait d'avoir une certaine reconnaissance et visibilité à un point tel qu'il a renoncé à son titre comptable. Mais ça, chez les leaders, on va vraiment à un haut niveau de scolarité, mais chez les adhérents convaincus, souvent, c'est moins universitaire quand même.
Alors, ceux qui auraient fait de scolarité seraient plus conscients de ce qu'ils font en même temps. Ils sont un peu conscients qu'ils sont dans la mauvaise voie.
Oui, oui, c'est ça. Les leaders, entre autres, il y en a. Mais c'est difficile parce que beaucoup de leaders, je pense qu'ils sont, croient quand même, ou ils se croient à mesure, mais en même temps, ils ont d'autres motivations politiques, économiques, sociales. Entre autres, quand j'ai comparu devant l'ordre des comptables, c'est vraiment ce qu'on voyait. La personne disait « Non, je crois pas, je fais ça pour faire rire, pour avoir de l'attention. » Mais deux minutes après, il disait « Mais attendez, là, vous allez voir la poursuite en Allemagne, on va démontrer que le vaccin tue les gens. » Puis on se rend compte qu'il croit à ce qu'il dit en même temps. C'est assez paradoxal, mais... Merci
beaucoup. Alors, c'était notre dernière intervention. Juste mentionner aussi que les livres sont à votre disposition à un coût de 25 $, je pense. Alors, c'est super important. Je remercie beaucoup la professeure Carignan pour sa présentation des plus intéressantes, des plus éclairantes. Merci énormément pour avoir démystifié plusieurs concepts qui nous préoccupaient, et aussi pour votre clin d'œil éditorial à quelques reprises qu'on a beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Des personnes qui veulent l'approcher, lui poser quelques questions, ce sera possible. Nous allons les placer dans quelques minutes parce qu'on aime bien être à l'heure. Je vous rappelle que nous avons le bar ouvert pour ceux qui apprécieraient des consommations. Et n'oubliez pas, au mois de mai, le 17 mai, nous avons une conférence sur la complexité de l'ADN avec la professeure Wuhan Gradua. Donc, on vous attend en grand nombre aussi pour cette conférence. Et bonne après-midi.